invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes et à tous. Chroniqueur sur France Musique, auteur des livres Paul Moria, Une vie en bleu et Les arrangeurs de la chanson française. Je reçois ce soir à nouveau l'ami Serge Elaïc. J'avais eu la chance de l'accueillir en 2019 ici même dans l'émission Tour de Piste pour présenter son livre Les arrangeurs de la chanson française. Un ouvrage qui a rendu hommage à ces artisans de l'ombre qui ont mis en son les plus grands succès de la chanson populaire. Serge est à mes côtés ce soir pour nous faire partager une nouvelle fois sa passion pour le métier d'arrangeur à travers l'histoire parisienne de Quincy Jones. Le célèbre trompettiste américain était en séjour dans la capitale entre 1957 et 1960 pour arranger et orchestrer pour une multitude d'artistes français et américains de l'époque. Cette parenthèse enchantée avait donné lieu à un certain nombre d'enregistrements, dont la majorité a été compilée par mon invité sur un coffret intitulé « Quincy Jones en studio à Paris ». Un prétexte en or, bien sûr, pour retrouver Serge Elaïc. Le temps du direct de ce soir et de passer à n'en pas douter un très bon moment. Bonsoir Serge, très heureux de t'avoir à mes côtés pour cette dernière émission de l'année scolaire.
Eh bien, moi aussi, je suis très heureux, cher Laurent, d'être à tes côtés pour parler de Quincy Jones.
Alors, cette idée de réunir la majorité des titres arrangés, composés et orchestrés par Quincy Jones durant son passage à Paris, te trottait la tête dans la tête depuis combien de temps ?
Oh bah, écoute, au moins une vingtaine d'années, puisque j'ai commencé à faire des compilations vers 2000 pour certaines maisons de disques. Et donc, dès cette époque, j'avais ça dans la tête. En fait, je peux te dire aussi que un de mes premiers 45 tours que j'ai acheté, peut-être pas le premier, mais dans les premières années d'achat de 45 tours, c'était en 1963 et j'avais acheté le fameux 45 tours de Quincy Jones avec son tube Soul Bossa Nova. Et j'ai toujours ce 45 tours en main. Voilà comment j'ai commencé avec Quincy Jones, donc il y a très 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 longtemps. C'était en 1963. Voilà. Et donc après, j'ai décidé, il y a quelques années, et je l'ai mis en exécution en 2024, la réalisation de ce coffret Quincy Jones en studio à Paris, avec une anthologie donc allant de 1957 à 1960. Voilà.
Et alors, avant de revenir sur les années parisiennes de Quincy Jones avec ce coffret publié au printemps de cette année chez Marianne Melody le 15 mars,
oui,
je te propose d'évoquer brièvement, si c'est possible, parce que quelle carrière, l'histoire de ce musicien hors norme.
Et oui, absolument. Alors, il faut dire, revenons déjà au départ, il est né le 14 mars 1933 à Chicago, où Quincy donc voit le jour, dans les quartiers sud de la ville, le ghetto. Et alors, vers 1943, il a 10 ans, sa famille émigre à Seattle, au nord-ouest des États-Unis, et peu après, le jeune homme apprend les rudiments de la trompette. Il va être aidé, en l'occurrence, par Clark Terry, trompettiste, qui était à l'époque un musicien de l'orchestre de Count Basie, de passage à Seattle en 1946. Et Quincy aime le dire, il était vraiment fasciné par le jeu de Clark Terry. Et c'est donc lui qui l'a vraiment amélioré au niveau du jeu de la trompette. Peu après, en 1948, eh bien, Quincy a 15 ans et il va croiser un autre très grand du jazz, un futur très grand du jazz, le Ray Charles, aveugle, déjà, et ce dernier vivait en Floride à ce moment-là. Quand Ray Charles débarque à Seattle, il rencontre Quincy Jones, et c'est lui d'ailleurs qui lui transmet les premières notions pour l'écriture des arrangements musicaux. On va le voir, continuer à progresser là-dedans, dans les arrangements chez Quincy Jones. Mais c'est vraiment Ray Charles qui lui a donné ses premières notions. Et les deux, donc Ray Charles et Quincy, vont se produire dans les clubs de la ville, à Seattle donc, et il joue du rhythm and blues et du bebop. Après cette rencontre avec Ray Charles, eh bien Quincy quitte Seattle pour aller à Boston parce qu'il veut s'améliorer sur le plan musical, et c'est là qu'il étudie dans une grande école de musique à Boston, donc le futur Berklee College of Music de Boston. Il rencontre à ce moment-là, dans la même année 1951, Lionel Hampton, qui l'engage dans son orchestre comme trompettiste et arrangeur. Et un peu plus tard, en 1953, Quincy, avec cet orchestre de Lionel Hampton, il va parcourir l'Europe, et notamment la France, déjà. Et donc, c'est en partie, il avait déjà travaillé en France à l'époque de 1953. Il était dans l'orchestre de Lionel Hampton, comme je l'ai dit, arrangeur et trompettiste. Après cela, eh bien, à partir de 1954, Quincy est freelance et il va arranger pour toute une série de grands musiciens américains, Ray Anthony, un célèbre trompettiste, le batteur Gene Krupa, il arrange pour lui. Il travaille aussi avec Dinah Washington pour qu'il arrange déjà, parce qu'il faut dire qu'en 1954, il faut le rappeler, Quincy n'a que 21 ans. Eh bien, déjà, il écrit de merveilleux arrangements pour tous ces gens-là. Un peu plus tard, en 1956, c'est Dizzy Gillespie, le célèbre trompettiste, qui engage Quincy comme trompettiste et directeur musical de son orchestre. Et avec cet orchestre, ils font une tournée au Moyen-Orient. Puis, comme le succès a été important au Moyen-Orient, eh bien, ils font une seconde tournée en Amérique du Sud. Et c'est d'ailleurs là qu'il rencontrera Quincy, le célèbre Lalo Schifrin, dont on va reparler tout à l'heure.
Forcément, oui, en cours d'émission. Et alors, quelles sont les raisons qui ont amené Quincy Jones à venir en France à partir de 1957?
Eh bien, d'abord, je rappelle son âge à nouveau, parce qu'en 1957, Quincy n'a que 24 ans, et il est déjà considéré aux États-Unis comme un des plus grands arrangeurs, déjà. Alors, il y avait déjà des grands arrangeurs comme Nelson Riddle, il y avait aussi Cy Oliver, il y avait Gordon Jenkins, tous de très grands arrangeurs américains. Eh bien, Quincy, à 24 ans, l'est déjà. Et c'est le chanteur Billy Eckstine qui a recommandé à Eddie Barclay et à sa femme en particulier, Nicole Barclay, de prendre Quincy comme arrangeur et directeur musical. C'est donc sur les conseils de Billy Eckstine, qui était un grand crooner américain, que Quincy est venu finalement en France. Voilà. Mais il y avait une question essentielle que se posait à Quincy Jones, et question d'ailleurs qu'il a posée à Nicole Barclay, la femme d'Eddie Barclay, et il lui a demandé s'il avait la possibilité d'écrire pour les pupitres de cordes, parce qu'aux États-Unis, les Afro-Américains ne pouvaient pas, disons qu'ils n'étaient pas sollicités du tout pour les cordes. Ils étaient sollicités pour la musique de jazz, le blues, mais jamais pour les arrangements pour les grands orchestres de cordes. Et sans ambiguïté, bien Nicole Barclay lui a dit: Parfait, Quincy, vous pouvez venir et vous pouvez être sûr que vous allez beaucoup écrire pour les cordes, ce qui s'est avéré parfaitement exact.
Et alors, il va aussi apprendre avec une Nadia Boulanger. Alors, elle est musicienne et pédagogue, professeure de composition, directrice du Conservatoire américain de Fontainebleau. Qu'est-ce que Nadia Boulanger, qui a eu des grands musiciens entre les mains, hein, on va en parler, Michel Legrand,
Bien
Lalo
sûr.
Schifrin, qu'est-ce qu'elle va lui apprendre à Quincy Jones?
Ben, elle va lui apprendre, elle va encore. Il faut dire que Quincy ne pense qu'à s'améliorer toute sa vie, il n'a pensé qu'à cela.
C'est un
Il voulait
travailleur
toujours
acharné,
faire le
alors.
mieux possible, toujours. Et donc, avec Nadia Boulanger, grande pédagogue musicienne, elle va lui apprendre, elle va l'améliorer au niveau de la composition, de l'orchestration, du contrepoint. Et d'ailleurs, c'est là, avec Nadia Boulanger, que Quincy rencontre le compositeur russe Igor Stravinsky, d'ailleurs.
Cette rencontre entre Stravinsky et Quincy Jones, elle va se passer comment entre les deux musiciens?
Ah ben, Quincy était très impressionné de rencontrer, il faut le dire, hein, et ça ne pouvait être qu'impressionnant pour lui de rencontrer Stravinsky. Et une petite anecdote que Quincy raconte dans son livre, qui s'appelle Quincy, tout simplement. Eh bien, dans son livre, Quincy raconte cette anecdote où il discute un peu avec Stravinsky, et Stravinsky lui demande: Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et Quincy lui répond: Je viens de dire à Monsieur Stravinsky que j'écrivais. Il raconte à Nadia Boulanger ce qu'il avait dit à Stravinsky, et il dit à Madame Boulanger: Je viens de dire à Stravinsky que j'écrivais un arrangement sur le blues du dentiste pour Henri Salvador. Il se sentait vraiment très intimidé, il se sentait ridicule. Et Nadia Boulanger l'a rassuré et elle lui a dit: Mais non. Le genre de musique ne compte pas, ce qui compte, c'est de faire les choses le mieux possible. Donc, tu n'as pas à dire que c'était ridicule de lui avoir dit ça. Voilà. Petite anecdote concernant Nadia Boulanger et Stravinsky et Quincy Jones.
Et alors, dans quel Paris de musique il débarque Quincy Jones en
Ah bah,
1957?
écoutez, donc, je te tutoie,
Mais
allez.
tu peux, Serge, depuis le temps qu'on se connaît.
Ben, oui, ben, dans Paris, dans l'époque où il arrive, donc en 1957, il y a déjà de grands artistes qui sont en pleine activité. Alors, je vais te donner quelques noms, mais il y a Dalida qui vient de démarrer peu de temps avant, mais qui démarre une grande carrière. Il y avait Aznavour aussi qui était dans les premières années de sa carrière. Becco, Trainé, Tino Rossi. Il ne faut pas oublier non plus Julien Gréco ou Jacques Brel. J'allais oublier Brassens. Tous ces gens-là, ils sont vraiment en pleine carrière dans ces années 50 et lui arrive dans cette période-là. Il arrive aussi dans l'époque où il y avait beaucoup de boîtes de jazz dans Paris, qui vont d'ailleurs disparaître au début des années 60. Mais donc, Quincy arrive à cette époque-là où le jazz était très joué dans les boîtes. Voilà. Et avec notamment de grands artistes américains qui venaient ponctuellement ou qui s'établissaient à Paris pendant quelque temps. Il y avait notamment Stan Getz, Kenny Clarke et autres.
Alors, je te propose mon cher Serge, qu'on ouvre la programmation musicale de ce soir. Ça s'appelle Avec ses yeux-là, il est extrait de l'album Et voilà, fruit de la collaboration entre le grand orchestre d'Eddie Barclay et Quincy Jones. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots
Oui,
sur
ce
ce
mot, et,
morceau-là?
ce mot, ce, cet album, cet album de 12 titres, Et voilà, est vraiment un album formidable. Et c'est vraiment la première collaboration de Quincy avec Eddie Barclay. On en reparlera peut-être après de comment se passaient les enregistrements du grand orchestre Eddie Barclay. Là, on va peut-être écouter un peu de musique avec ce formidable arrangement que Quincy avait arrangé pour ce morceau d'Aznavour. Mais aussi, c'est la musique est de Eddie Barclay et de Michel Legrand, il faut le dire. Cette musique est, bien que ce soit une chanson connue d'Aznavour, il a écrit des paroles, Aznavour, mais la musique que l'on va entendre, elle est composée par Michel Legrand et Eddie Barclay.
Thank you.
Eddie Barclay et son orchestre arrangé et dirigé par Quincy Jones avec ses yeux-là. Il est extrait de l'album Et voilà, ça a été enregistré les 24 juin et 18 octobre 1957. Premier des deux albums de la collaboration entre Barclay et Quincy Jones. Musique co-signée par Michel Legrand, comme tu me le disais tout à l'heure, mon cher Serge.
Et oui, alors, ce que l'on vient d'entendre, c'est la version américaine du disque. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est la version stéréo, c'est la seule version stéréophonique qu'il y avait eu en vinyle à l'époque. La version française ou européenne était en monophonie, alors que là, dans ce disque, Et voilà, qui avait été rebaptisé aux États-Unis Americans in Paris, eh bien là, il y avait une version stéréophonique que j'ai pu mettre sur ce coffret. Donc c'est la première fois que sur un CD, il y a la version stéréophonique de ce grand album Barclay Jones. Donc voilà, et j'avoue que c'est une très belle version. Et il y a aussi de très grands solistes dans cette
oui,
dans
ce disque. Il y a du très très beau monde hein, sur ce titre et
oui,
sur cet
absolument.
Album.
Il y a Stéphane Grappelli au violon, il y a le saxophoniste américain Lucky Thompson et Don Byas, il y a l'incontournable flûtiste français Raymond Guyot, il y a aussi Kenny Clarke à la batterie, il y a Art Simons au piano. Il y a vraiment une kyrielle de grands artistes beaucoup américains, mais il y avait aussi dans cet orchestre où il y avait énormément de musiciens, il y avait tous les musiciens de Paris, les meilleurs musiciens de Paris que l'on appelait les requins de studio.
Et on peut les citer, hein, les grands musiciens qui ont dirigé l'orchestre d'Eddie Barclay.
Ah oui, moi ça me fait plaisir d'en parler parce que j'adore cet orchestre d'Eddie Barclay. Alors c'est vrai que la Quincy en a fait quelque chose de totalement différent de ce que les arrangeurs qui avaient arrangé cet orchestre dans les années 50. Il y a eu notamment Joe Boyer qui a comme titre de gloire, il a accompagné Josephine Baker, il avait accompagné Charles Trenet et beaucoup de grands artistes. Il y a eu aussi Jean Bouchetti qui a dirigé l'orchestre d'Eddie Barclay. Jean Bouchetti, un contrebassiste qui a été très connu plus tard comme arrangeur de Michel Fugain pour tous ses grands tubes des années 70. Et il y a eu aussi Michel Colombier qui a arrangé un super disque de l'orchestre d'Eddie Barclay. Michel Colombier, connu pour sa collaboration avec, en France, Serge Gainsbourg, et puis ensuite aux États-Unis où il a fait carrière. Voilà, il y a eu beaucoup de musiciens qui sont devenus de grands arrangeurs qui ont dirigé et arrangé pour cet orchestre d'Eddie Barclay que Eddie Barclay ne dirigeait pas lui-même. Eddie Barclay, il avait ce grand orchestre qu'il avait créé donc pour sa marque Barclay. Et il était disons, c'est lui qui dirigeait le tout quand même s'il dirigeait pas l'orchestre. Il choisissait les thèmes de chacun des albums. C'est lui qui décidait si tel ou tel arrangeur allait arranger le disque. C'est lui qui choisissait aussi tous les morceaux que l'on entendait dans ces disques instrumentaux du grand orchestre Eddie Barclay, qui a été vraiment une des formations importantes en France.
Alors c'est vrai, oui, Eddie Barclay, pour la majorité d'entre nous, ça fait penser aux soirées tropéziennes, un homme à femme.
Tout à fait.
Mais ça a
tout
été un grand mécène pour la chanson de cette époque et il a amené,
tout à fait.
Il a amené aussi beaucoup d'argent.
Alors, et puis je dis aussi, j'aime toujours dire que Eddie Barclay, il avait le sens de la présentation des disques, que ce soit des disques 45 tours à l'époque et des grands 33 tours, parce que toutes les pochettes de la marque Barclay étaient vraiment des petits bijoux. Voilà, comme le disque Et voilà, le 33 tours Et voilà dont on vient d'entendre un extrait. Et bien sur cette belle pochette, on voit ensemble Eddie Barclay et Quincy Jones qui sont côte à côte, et c'est vraiment une superbe pochette.
Et je profite pour dire que sur le livre explicatif très documenté qui accompagne ce fameux coffret sur les années parisiennes de Quincy Jones, on retrouve les belles pochettes, notamment d'Eddie Barclay.
C'est vrai. Il y en a une autre d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne passera pas de morceau du second disque que Quincy a arrangé pour Eddie Barclay. Ce disque s'appelle Confetti. Il y a, c'est pas tout à fait le même style d'arrangement dans ce disque, ce deuxième album d'Eddie Barclay dirigé, arrangé par Quincy Jones. Il y a plus de cordes dans ce deuxième disque. Il y a des choristes dans ce deuxième disque qui s'appelle donc Confetti. Et d'ailleurs, petit aparté, sur la pochette de ce disque, qui est une superbe pochette, Confetti, on voit Eddie Barclay et Quincy Jones côte à côte avec sous une pluie de confetti. Encore une fois, une belle pochette imaginée par Eddie Barclay et son équipe.
Oui. Voilà. Et puis c'est une époque hein, aussi.
Voilà.
Et on va poursuivre cette programmation avec une collaboration entre le trompettiste américain, donc Quincy Jones, et le chanteur Henry Salvador, cette fois-ci. Le morceau s'appelle « Moi, je préfère la marche à pied ».
Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature.
Moi, je préfère les marcher à pied.
Une bagnole pleine de trucs mécaniques, une tirette pour le whisky glacé, un bouton pour le beefsteak pommes frites.
Et moi, je préfère les marcher à pied.
En passant sur les Champs-Élysées, y aurait des belles filles qui se battraient pour essayer de monter. Je chanterais près d'un bateau, bip, on irait faire du 300 à l'heure sur des routes champêtres et parfumées. Paris-Lyon en un peu plus d'une heure.
Mais moi, je préfère les marchés.
Ma voiture vient de faire des merveilles. J'ai séduit la plus jolie poupée. On va vivre une nuit sans pareil.
Oh, c'est vous pour les marchés-pieds.
Je la vois déjà dans ma petite chambre, avec un nylon extra léger, ses grands yeux et sa peau couleur d'ambre.
Bah, tu connais pour les marchés-pieds.
Je l'entraîne sur un divan moelleux, elle tombe dans mes bras. Je l'embrasse, bon sang, c'est délicieux. Et je chante.
Bouf.
On s'adore, ça y est, c'est pour la vie. Ma chérie, puis-je vous proposer de passer une heure à la mairie?
Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied.
Oh, je te l'avais bien dit.
Henri Salvador, moi je préfère la marche à pied orchestrée et arrangée et dirigée par Quincy Jones. Alors Henri Salvador incarne à merveille la chanson jazzée de ces années-là.
Tout à fait.
Quincy Jones est l'un des plus grands producteurs de stars du jazz. Michel Legrand, dont on a parlé tout à l'heure, qui était arrangeur lui aussi, ou encore Valberg, l'arrangeur de Charles Trenet, ou amené le jazz de la chanson. On pourra en citer beaucoup d'autres. Est-ce qu'on doit la jazzification d'une partie de la chanson française de cette époque-là aux arrangeurs?
Ah bah oui, c'est sûr. Dans les années 50, il y a d'abord, tu l'as cité, mais il faut le redire, Michel Legrand
qui a été
amené
très important.
Vraiment une révolution dans l'art des arrangements. Il y en a eu un autre très important aussi qui a été, en dehors de Quincy évidemment, mais il y a eu aussi Alain Goraguer qui a été le premier arrangeur de Gainsbourg et qui a amené aussi lui-même le jazz dans la chanson. Voilà deux, trois, quatre arrangeurs qui ont permis cette modification du style des arrangements qu'il y avait en France, qui était plutôt plus classique. Et je te le répète, quand on écoute les disques d'Eddie Barclay, grand orchestre, on voit très bien la différence qu'il y a entre les arrangements écrits par Quincy et ceux écrits par les autres, notamment Joe Boyer, qui était excellent par ailleurs. Mais ce n'était pas du tout, c'était le style français de l'époque, très 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 bien écrit d'ailleurs aussi, tous les arrangements, mais ce n'était pas du tout pareil. Et d'ailleurs, on n'a pas dit un petit peu ce qui distingue Quincy des autres.
Des autres arrangeurs, oui. Alors, je vais poser la question.
Oui, c'est ça. Et ce que j'ai pu retrouver dans les lectures que j'ai faites, c'était qu'il était très rapide pour écrire, qu'il avait une capacité technique à se sortir de difficultés incroyables sur l'écriture de partition. Et très important, ces 8 premières mesures dans chaque chanson, ou chaque morceau, comme on en a écouté un tout à l'heure, de Eddie Barclay, c'est souvent crucial parce que ça doit accrocher l'auditeur. Et je lis dans le livre de Quincy, sous la plume de Bobby Tucker, qui était un arrangeur aussi américain, qui disait que Quincy était le roi du démarrage qui pète le feu. Et c'est vrai que dans les deux morceaux qu'on a écoutés tout de suite avant, c'est parfaitement exact. Quincy savait comment démarrer le mieux possible une chanson pour pouvoir, ou un morceau de musique, pour pouvoir attirer l'oreille de l'auditeur.
Et on lui
ça,
doit,
c'est sûr et certain.
Et on lui doit d'ailleurs les grands succès planétaires de Michael Jackson quand il était encore derrière les manettes.
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard.
Et je te propose qu'on écoute maintenant une femme, Joan Richmond, une américaine. Le titre s'appelle « I have got a right to sing the blues ». Alors tu pardonneras mon accent anglais.
C'est orchestré, arrangé, dirigé par
Quincy Jones. Tu veux nous dire quelques mots sur Joan Richmond?
Oui, c'était une femme qui était originaire de Chicago, comme Quincy finalement, mais un peu plus tôt. Et elle avait chanté dans des orchestres américains connus là-bas, Jimmy Dorsey ou Cab Calloway. Et ensuite, en 1948, elle arrive en Europe, et notamment parce que c'était un point où le jazz était bien organisé là-bas, c'est à Stockholm, en Suède, en 1951. Ensuite, elle arrive en France, et elle va travailler pour le label Barclay. Avant même d'arriver à travailler pour le label Barclay, je me souviens que Jacques Danjean, qui fut un de mes arrangeurs préférés dans les années 60 et les suivantes, eh bien Jacques Danjean l'avait accompagnée aussi en tournée. Il avait été avec elle se tourner. Je crois même qu'il avait été aux États-Unis un moment pour l'accompagner là-bas. Donc je reviens à son arrivée en France en 1953-54. Eh bien, elle fait quelques disques avec des orchestres français. Encore une fois, je vais répéter le nom de Joe Boyer puisque c'est un de ceux qui l'accompagnera à son arrivée. Puis, donc, Quincy Jones va l'accompagner également. Et on va écouter un de ses disques du 45 tours où elle chante le morceau que tu as cité. Le disque s'appelait, et s'appelle toujours, hein, Joan Richmond chante en anglais. Et on trouve les quatre titres dans le coffret que j'ai compilé donc il y a bientôt 3 mois et demi.
Grande voix féminine du jazz, c'était l'américaine Joan Richmond, arrangement et direction d'orchestre, bien évidemment, de Quincy Jones. Et alors cette émission, c'est l'occasion aussi de parler d'un autre homme de l'ombre qui est très important, l'ingénieur du son Gerhard Klenner. Il a le droit au chapitre, ce garçon.
Oui, parce que en fait, on l'a pas dit tout à l'heure, mais si les artistes américains venaient, comme on va en parler avec Sarah Vaughan, à Paris, pour enregistrer avec Barclay, c'était parce que Barclay, sous la conduite de Gerhard Lehner, l'allemand Gerhard Lehner, avait construit Avenue Hoche à Paris, les studios Hoche qui étaient, d'après ce que m'avait raconté Eddie Barclay, les meilleurs du monde à ce moment-là. Barclay avait réussi le tour de force d'avoir à Paris, Avenue Hoche, un immense studio qui faisait venir tous les grands Américains qui sont venus, par exemple, enregistrer chez lui, alors qu'ils étaient, ils auraient pu le faire aux États-Unis. Il y avait Sammy Davis Jr., il y a eu Duke Ellington en partie qui est venu à ce moment-là, et il va y avoir, puisqu'on va l'écouter, si j'ai bien compris, il va y avoir Sarah Vaughan, dont on retrouve l'album Vaughan and Violins dans le coffret que j'ai produit il y a quelques mois. Voilà.
Et le titre que j'ai choisi de Sarah Vaughan, c'est That's All.
Promise to be near each time you call, and the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in the springtime and a hand
C'était la voix de celle qu'on surnommait Sassy. Les amateurs ont reconnu Sarah Vaughan avec le titre That's All, l'extrait de Vaughan and Violins. C'est bien évidemment une collaboration avec Quincy Jones.
Il faut dire aussi que dans cet orchestre, il y avait 50 musiciens dans l'orchestre qui accompagnaient sous la direction de Quincy et les arrangements de Quincy. Il y avait 50 musiciens avec notamment, et on l'a entendu à l'instant, le fameux saxophoniste ténor Zoot Zims. Il y avait le contrebassiste français très connu Pierre Michelot et le batteur Kenny Clarke qui s'était installé à Paris et qui est resté de très nombreuses années à Paris. Voilà, c'est un album également que Sarah Vaughan a vraiment voulu venir enregistrer à Paris parce qu'il y avait non seulement Quincy, mais aussi donc les fameux studios Barclay tout neuf, 9 Avenue Hoche à Paris. Voilà, ça il faut le dire parce que vraiment dans tous ces orchestres que dirigeait Quincy, il n'y avait que des top niveaux de la musique. Hein, c'était vraiment remarquable au niveau musical, on va le dire.
Et il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis de ces studios-là ?
Ah ben, il n'y en avait pas à l'époque, d'après ce que m'avait dit Eddie Barclay, que j'avais interviewé il y a quelques années avant sa disparition. Et il m'avait dit qu'à l'époque, dans les années 58, 59, 60, son studio Hoche à Paris était parmi le ou les meilleurs du monde. Voilà, et pourquoi, voilà pourquoi, à ce moment-là, les artistes venaient chez lui enregistrer pendant ces années de fin des années 50 et début 60.
Alors Quincy Jones a offert ses services à des grandes voix de la musique américaine, hein, on en a écouté là tout à l'heure, mais aussi un chanteur assez peu connu du nom de Bob Martin.
Ah oui,
c'est assez incroyable.
Un chanteur que j'ai très bien connu, qui était peu connu, et pourtant il a fait une belle carrière lui-même, en tant que chanteur au Lido de Paris pendant une quinzaine d'années. C'était un de ceux qui animaient les soirées au Lido. Il avait une voix de crooner incroyable. Et quand il a été accompagné par Quincy, c'était pour lui fabuleux, quoi. Il a fait pas mal de disques, hein, Bob Martin, mais il n'a pas été très connu au plan français. Puis il aurait pu faire une meilleure carrière, mais malheureusement, il n'a pas eu cette chance de pouvoir le faire, alors qu'il avait les capacités vocales d'un grand crooner comme les gens de Jean Sinatra et autres. Bon, c'est comme ça, c'est la vie.
Alors, fin 58, Quincy Jones repart aux États-Unis pour finalement revenir en France en 1960. Quelles sont les raisons du retour de Quincy Jones à Paris ?
D'abord, finalement, Quincy a résidé à Paris en 1957, à partir du mois de juin, jusqu'à la fin de l'année 1958. Il était résident, il habitait, il avait un appartement parisien. Ce n'était pas des allers-retours qu'il faisait à ce moment-là, c'était vraiment en résidence parisienne, pour donc travailler chez Barclay, avec tous les artistes dont on a déjà écouté certaines chansons, ou l'orchestre d'Eddie Barclay, mais aussi, il travaillait, on l'a dit aussi, on peut le redire, il travaillait la musique, l'orchestration, la composition, avec Nadia Boulanger. Donc il était resté à Paris pendant un peu plus, environ 18 mois, on va dire. Ensuite, il est donc reparti aux États-Unis à la fin de l'année 1958, et là-bas, très vite arrivé là-bas, il s'installe à New York, où il est demandé par Count Basie, qui lui demande de composer et d'arranger complètement tous les titres de l'album qui s'est appelé et qui s'appelle toujours « Basie One More Time ». Il a enregistré ça en décembre 58 et janvier 59. Et dans ce disque de Count Basie, pour lequel donc Quincy avait composé et arrangé tous les titres, il y avait deux titres notamment qui s'appellent « Red Race »,« La course aux rats » et « For Lena and Lenny ». Lena, c'était la grande chanteuse Lena Horne, et Lenny, c'était le chef d'orchestre de Lena Horne, qui s'appelait Lenny Hayton, et donc Quincy avait écrit en leur hommage ce morceau. Et alors pourquoi j'en parle ? Parce que ces deux compositions de Quincy, Rat Race et For Lena and Lenny, eh bien on les retrouve, elles sont reprises en 1960, puisqu'on va en parler, par le groupe français, groupe vocal français, des Double Six, dans l'album qui s'appelait Les Double Six, Meet Quincy Jones, et qu'on retrouve également dans le coffret, disque Double Six, Meet Quincy Jones, parrainé par Quincy Jones. Alors, je reviens à ta question, parce que c'était pourquoi Quincy revient à Paris en 1960, notamment pour parrainer ce disque. En réalité, il n'est pas venu spécialement pour parrainer le disque des Double Six. Il était venu en Europe à nouveau en fin d'année 59 parce qu'il avait été sollicité pour diriger la comédie musicale américaine qui s'appelait Free and Easy, qui avait été écrite par Harold Arlen, auteur de la musique d'une chanson qu'on connaît tous, du moins c'est probable. C'est Over the Rainbow qui avait été immortalisé par Judy Garland. Et le parolier, c'était Johnny Mercer, le parolier archi-connu, Johnny Mercer. Et donc, Quincy est revenu en Europe parce qu'on lui avait demandé de diriger cette comédie musicale. Cette comédie musicale qui s'appelait donc Free and Easy débutait en décembre 1959 à Amsterdam. Et elle devait durer plusieurs mois pour se conclure plusieurs mois plus tard à Broadway. C'était le planning prévu. Mais malheureusement, Eh bien, cette tournée a été finalement catastrophique. Et 2 mois après son début, malheureusement, cette comédie musicale s'est arrêtée. Et à ce moment-là, ils étaient à Paris, à l'Alhambra de Paris. C'était en février 1960. À vrai dire, quand ils ont dû s'arrêter de performer Free and Easy, eh bien, Quincy a très mal vécu cela parce qu'il avait amené avec lui que des 18 musiciens, que des cracks, que des pointures, comme on dit, hein, pour faire partie de l'orchestre qui était autour de cette comédie musicale Free and Easy. Et contre vents et marées, eh bien, il a décidé de continuer à se produire en Europe, mais seulement avec l'orchestre qu'il avait réuni pour l'occasion. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile du tout. Il faut le dire que les musiciens étaient complètement d'accord pour continuer l'aventure en se produisant par-ci, par-là en Europe, en trouvant des points de chute dans diverses capitales ou diverses villes européennes. Mais il fallait de l'argent, et il fallait des milliers de dollars, et Quincy a emprunté de l'argent. Il a même cédé une partie de son catalogue de compositions pour réunir de l'argent. Et puis donc, il faisait des enregistrements, des séances d'enregistrement, ça et là, qui lui permettaient, par le financement de ces séances, qu'on lui payait donc, qui couvraient en partie les frais de fonctionnement de l'orchestre qu'il avait tenu à faire circuler en Europe. Voilà. Et c'est là donc qu'il a été mêlé à l'histoire des double six, qui était déjà, avant même qu'il revienne en Europe, qui était déjà lancée. C'est la chanteuse qui chantait dans les groupes vocaux qui s'appelait Mimi Perrin, qui a fondé cet orchestre en 1959. Ça s'appelait le groupe vocal Les Double Six. Et elle souhaitait enregistrer l'album Double Six Meet Quincy Jones, Les Double Six rencontrent Quincy Jones. Et Quincy a eu la gentillesse de lui donner à Mimi Perrin les partitions de plusieurs compositions et arrangements qu'il avait écrites pour diverses big bands américains ou suédois. Parce que je l'ai dit, la Suède a été un terrain très, très privilégié pour plusieurs chefs d'orchestre, et notamment Quincy Jones, qui était très lié à un des chefs d'orchestre là-bas. Et c'est pour ça qu'il leur avait écrit à cet orchestre suédois des morceaux que Quincy a donné donc à Mimi Perrin pour qu'elle les chante. Parce qu'en fait, les double six, l'idée de Mimi Perrin, c'était de restituer vocalement les versions instrumentales des compositions et des arrangements de Quincy Jones. Alors, dans ce groupe vocal des double six, il y avait 6 chanteurs. Christiane Legrand, tout simplement la sœur de Michel Legrand, c'était elle la reine des groupes vocaux de l'époque. Il y avait aussi Ward Swingle, qui, a quelques années après, va créer le groupe Les Swingle Singers, qui a été un très grand groupe de jazz, on va le dire comme ça. Ensuite, il y avait 3 autres chanteurs. Il y avait tout simplement Jacques Dangean, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui fut un des grands arrangeurs français, notamment dans les 60s, mais également dans les années 70. Et Jacques Dangean, que j'ai très bien connu parce qu'il habitait dans l'Eure, au Fiedler. Donc, j'ai eu facilité, vu sa position géographique, de le rencontrer assez rapidement, au milieu des années 80. Et il m'a été formidable, il m'a permis de débuter à la radio sur Évreux. Et puis donc, je l'ai invité aussi lui-même pour qu'il nous raconte sa carrière. Et d'ailleurs, je crois que tu vas nous passer
Oui,
un
absolument.
extrait de cette interview que j'ai, enfin d'une partie de l'interview que j'avais faite de Jacques Dangean. Juste un petit mot pour finir pour les double six, avant qu'on les écoute aussi d'ailleurs. C'est que double six, pourquoi? Parce que en fait, chacun des chanteurs chantait 2 parties. Hein. C'est-à-dire, par exemple, Jacques Dangean chantait les parties correspondant au second trombone et au second saxo ténor, voilà, d'un big band. C'est pour ça que ça s'appelait les double six. Voilà, donc on écoute Jacques Dangean et je suppose
Ouais, c'est
Alain
ça.
Toulet.
Alors, je propose qu'on écoute le fameux Rat Race des Double Six. Hein, c'était mon choix
Ah,
pour
c'est
ce
après que tu
soir.
vas passer
Et,
l'interview
mais,
de
mais on va d'abord entendre une interview de Jacques
Ah,
Dangean
voilà, c'est ça.
réalisée par tes
D'accord.
soins et qui parle justement de ses sessions de travail avec Quincy Jones.
Il a gardé un souvenir extraordinaire, vous allez l'entendre, de ce travail avec les double six, Jacques Dangean.
Le soir, j'ai rencontré Mimi Perrin qui m'a dit, écoute, Jacques, pourquoi tu viendrais pas avec nous, on est en train de monter un groupe. Moi, ça m'a tout de suite, j'étais motivé complètement. J'ai quand même fini mon verre avant de lui donner la réponse définitive. C'était lui, bah oui, on essaie, on a commencé les répétitions très très rapidement après. C'était quelque chose de formidable, je me souviens parfaitement bien, bien sûr, de Quincy Jones, qui nous a appris des tas de choses, qui était très sympathique. Donc le compositeur de toutes les œuvres que nous avons chantées. Je me souviens parfaitement bien de Mimi Perrin. Une époque fabuleuse. On travaillait vraiment sans savoir où on allait, parce qu'on ne savait pas si on allait vendre des disques, mais on s'en foutait complètement. Mais on travaillait tellement, on cherchait tellement la perfection que quand un enregistrement n'allait pas, on recommençait, et ainsi de suite, ainsi de suite.
Pas besoin de balai pour prendre le rano, pas de balai, vous me cédez des dents. Je l'entraîne, l'entraîne, très loin, très loin. C'est pas la première fois que je me bagarre avec un rano. Pas besoin d'aide, gardez donc. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rano. Vous dira que rouge dans mes provisions. Moi je vous le dis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le rano. Vous dira qu'on rentre partout comme un fou, vite comme un fou. Non, il n'y a pas d'autre moyen. Moi je vous le dis, pas de niment. M'avait l'air de ne pas y croire beaucoup, vous n'en faites pas. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de baratin. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas de malin. Viens, dira, il n'y a pas longtemps, tu faisais des bons. Tu ferais mieux d'abandonner, dis mon bonhomme, car moi je te vois par là-bas, partout, t'es pas malin. Défie-toi là-bas, dis, défie-toi là-bas, ton trou, si tu veux, dis mon rat, t'as oublié de le ramener, oui, dis donc, t'as beau t'en aller là, t'es perdu, mon rat.
Dis-le, il est parti là-bas. Dis-le, il est parti là-bas, sur toi là. Dis-le, il est parti là-bas. Dis-le, il est parti là-bas, sur toi là. Il est perdu le rat.
Titre Right Race, composé et arrangé par Quincy Jones pour l'album Basie One More Time de Count Basie, comme le disait tout à l'heure Serge, et restitué vocalement par le groupe Les Double Six. C'est super, mon cher Serge. Il y a un niveau de technicité vocale absolument incroyable.
Impressionnant, mais ils ont mis plusieurs mois à enregistrer ce disque. C'est ce que Jacques Dangean m'avait bien expliqué. Peut-être même un an, m'avait-il dit. Il ne se souvenait plus exactement, mais en tout cas plusieurs mois, c'est sûr. Et donc, pendant l'année 60, à un moment donné, en avril, Quincy est venu superviser leur répétition. Et tu peux comprendre, et c'est ce qu'a dit Jacques, c'est Jacques Dangean, et tu peux comprendre que les chanteurs et les musiciens étaient heureux de voir Quincy venir leur donner des conseils sur les morceaux qu'ils étaient en train de travailler. C'est évident. Et il y avait, il faut le dire quand même aussi, dans ce morceau Rat Race, il y avait quelques musiciens. Il y avait Art Simons au piano, Elec Baksik à la guitare, Michel Gaudry contrebasse, encore une fois Pierre Michelot à la contrebasse. Ça dépendait des morceaux. C'est pour ça qu'il y a deux contrebassistes. Daniel Humer était à la batterie avec Christian Garros, alternativement. Dans certains morceaux, c'était l'un puis l'autre. Et encore une fois, Kenny Clarke à la batterie, comme dans pratiquement chaque disque qu'avait fait Quincy à Paris. Kenny Clarke était venu en 1956 et il s'est installé définitivement en France. Hein, et il est décédé en 1985 à Montreuil-sous-Bois exactement. Donc Kenny Clarke est un des Américains qui s'est installé définitivement en France à partir de 1956 et il y a vécu donc une trentaine d'années en France.
Et alors Quincy Jones, il va diriger l'album de Under Paris Skies aussi du crooner américain.
Oui, superbe album que j'adore et que l'on retrouve également dans le coffret. J'étais heureux de pouvoir le mettre cet album dans le coffret parce que Andy Williams, très grand crooner américain, qui était à ses débuts à l'époque, dans les années 55-60. Et là, il a enregistré sous la direction de Quincy un disque formidable qui s'appelle Under Paris Skies. Et il y a donc des titres vraiment superbement arrangés, comme April in Paris. Tous les titres ont rapport avec Paris, évidemment. Mademoiselle de Paris, Under Paris Skies, Domino, I Love Paris. Enfin, tous les grands titres. Et La Valse des Lilas aussi, composée entre autres par Eddie Barclay et Michel Legrand. Vraiment un superbe album qui est heureusement en stéréophonie également dans le coffret donc Quincy Jones en studio à Paris, anthologie 1957-1960.
Stranger beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on a street of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool. For Paris can be so beautifully Paris is just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware, there's love in the air. Just look and see what happened to me under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. I fell in love. I was a fool. Yes, Paris can be so beautifully cruel. Paris can be a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware, sympathetic, magnifique. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
Le magnifique Under Paris Skies du crooner américain Andy Williams pour cette émission qui reçoit Serge Laïc à l'occasion de la sortie de son coffret en mars. Quincy Jones en studio à Paris. Comment tu as fait, je me suis posé la question, pour retrouver les 74 titres que l'on retrouve sur ce fameux coffret.
Ah ben quand on est fou, on cherche tout le temps. Et comme je suis un peu fou, ça fait 50 ans, 60 ans que je cherche les disques de Quincy Jones, puisque mon premier disque de Quincy, c'était en 1963. 1963. Donc on en est à 61 ans, figure-toi. Donc j'ai eu le temps de retrouver largement les 74 titres que l'on retrouve sur ce coffret.
Je rajoute qu'il y a un très beau livre explicatif de 40 pages avec 18 photos où on retrouve les pochettes, des photos de Quincy avec tous les musiciens avec lesquels il a travaillé pendant cette période. Quel souvenir Quincy Jones gardera de cette parenthèse parisienne ?
Fabuleux, fabuleux, il en parle tout le temps. Et puis, vraiment, chaque fois qu'il en parle, c'est avec émotion. Il se rappelle très bien de ses travaux avec le groupe des Double Six. Et c'est des choses qu'il ne peut pas oublier. Voilà. Et puis, il est resté très ami avec Henri Salvador. Ils se sont vus X fois dans les années qui ont suivi. Ça a été un ami vraiment, Henri Salvador, pour Quincy Jones.
Oui, ça dépassait largement le cadre de la collaboration.
Exactement, exactement, exactement.
Et l'émission va toucher à sa fin, mon cher Serge. C'est toujours un plaisir, c'est bien dommage. J'insiste là-dessus, de t'avoir. C'était court, une heure. Ton livre, Les Arrangeurs de la chanson française, qui a fait l'objet de plusieurs tirages. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura une version avec Quincy Jones en tant qu'arrangeur.
Mais c'est vrai, qu'on aurait pu mettre peut-être un petit passage, quelques pages sur Quincy Jones à Paris, puisque c'était un arrangeur pour des Français, entre autres. Il était résident parisien, c'est vrai.
Est-ce qu'on trouve encore ton livre Les Arrangeurs de la chanson française,
qui est une bible sur cette profession.
Juste pour le plaisir, on va écouter Sol Bossa Nova, le plus grand succès de Quincy Jones. Il a été composé juste après cette parenthèse parisienne.
Absolument, en 1962.
Donc c'est le titre qui va clore cette émission, pour laquelle je te remercie d'en avoir été l'invité.
Moi aussi, je te remercie.
On se retrouve le 15 septembre à 20h sur les ondes de Principe Actif. On parlera de tout autre chose, le festival Rock in the Barn, qui se déroulera à Vernon début septembre. Donc, mon cher Serge, tu reviens quand tu veux dans cette émission.
Ça, c'est toujours avec grand plaisir, parce que tes émissions sont toujours préparées de façon hyper nickel.
Bon, et puis là, je ne t'avais pas en face, parce que pour un certain nombre de raisons, il a fallu qu'on le fasse par Messenger. Mais la prochaine fois, tu seras sur le plateau. Donc, je te remercie. Oui. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Ça fait plus de 10 ans maintenant que cette émission Tour de Piste existe. Passez un bel été. Bonne soirée à toutes et à tous. On se quitte avec le Sol Bossa Nova de Quincy Jones. Bonsoir, Serge.
Très grand merci, Laurent.
Très grand merci.
Et merci, Quincy Serge. Jones.